Bien, nous allons commencer. Bonsoir à tous, bienvenue. Alors, tout d'abord, nous allons procéder à la désignation d'un secrétaire de séance et je propose Monsieur Raymond Carasi. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Merci. Je dois vous faire état des procurations qui me sont parvenues. Alors, M. Jean-Luc Dacosta a donné procuration à M. Lionel Muret. M. Vincent Théoki a donné procuration à Michel Lagarde. Mme Sonia Collot a donné procuration à moi-même. Mme Fanny Biscara a donné procuration à M. Antonio Muga. Mme Renée Sauvera a donné procuration à Michel Payalonga. Et maître Jean-Paul Montagnier a donné procuration à Georges Point. Je vous fais part également de quelques remerciements. Alors, Madame Entresangle Jacqueline nous remercie pour la sympathie et l'attention, ainsi que pour la pensée que nous avons eue lors du décès de son époux Paul. La famille Rudéric également, lors du décès de Madame Rudéric. Et je vous fais part du bref courrier suivant qui émane de Madame Sophie Foucault, présidente de l'association Savi. Monsieur le maire, pour la quatrième année consécutive, l'association Pêche Passion de l'Aigle Camarétoise a organisé un EnduroCart Petit David du 24 au 26 octobre 2014 à Camaret. Enduro au profit de la recherche sur la mort subite du nourrisson. La mairie de Camaret, au travers du prêt de la salle et des nombreux lots donnés, a participé et a contribué à soutenir cet enduro et en conséquence à soutenir la recherche sur la mort subite du nourrisson. Nous souhaitons donc vous remercier chaleureusement pour votre implication, votre participation et votre soutien à cette recherche. Tous ces gestes et soutiens nous encouragent à poursuivre nos actions. Et en tant que président de l'association Savi, je peux vous garantir que les fonds collectés seront bien reversés à la recherche sur la mort subite du nourrisson. Voilà en ce qui concerne les remerciements. Nous passons à l'adoption du procès-verbal de la dernière séance. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté. Et puis je vous indique qu'après la séance, Madame Sauvera a demandé à son collègue Michel Payalonga de nous lire, à nous élus du conseil municipal, une brève lettre dont elle tenait à faire état. Voilà, donc je passe à l'ordre du jour proprement dit. Vous avez tous été, je pense, informés du retrait du premier rapport débat d'orientation budgétaire que nous reportons au 7 mars en raison d'un défaut de données chiffrées émanant du Trésor public. Oui, Madame Thibault.
Bon, est-ce que vous m'entendez là ? Non ? Bon, écoutez, voilà, ça va mieux. Oui, donc, au sujet donc de l'organisation du débat d'orientation budgétaire qui devait être présenté donc aujourd'hui, 19 février. Donc, nous avons été effectivement informés par mail et nous prenons acte donc de votre décision de retirer de l'ordre du jour du conseil municipal la délibération relative au débat d'orientation budgétaire. Vous avez évoqué à l'instant et également dans vos différents mails, vous avez justifié votre décision en absence de données validées par le Trésor public. Les raisons de ce retrait sont, de notre point de vue, bien différentes, et je vais m'en expliquer. Donc, si nous avons reçu vendredi 13 février 2015 le dossier du conseil municipal comprenant la délibération sur le débat d'orientation budgétaire, ce dernier n'était pas accompagné d'une note de synthèse. Laurent Arcuzet s'est déplacé en mairie le mardi 17 février 2015 pour demander le contenu donc, du débat d'orientation budgétaire. Aucun document n'était à la disposition des élus ce jour-là. Ce n'est que vers à 18h52 très précise, le jour même, soit deux jours avant le conseil municipal, que vous nous avez transmis ce document. Nous souhaitons donc vous rappeler, nous vous rappelons, que les membres du conseil municipal doivent disposer, conformément aux dispositions de l'article L2121 du Code général des collectivités territoriales, d'une information suffisamment détaillée et jointe à la convocation des membres du conseil municipal. Je voudrais vous rappeler que cette absence d'information concernant le débat d'orientation budgétaire constitue une irrégularité substantielle de nature à entacher la procédure d'adoption du budget primitif. Nous notons également qu'il n'y a pas eu de commission des finances pour présenter vos orientations budgétaires. Vous n'avez pas respecté également le règlement intérieur voté ici en septembre 2014 concernant le débat d'orientation budgétaire et qui précise, je vous le rappelle, toute convocation est accompagnée d'un rapport précisant par nature les évolutions des recettes et des dépenses de fonctionnement, ainsi que les masses des recettes et des dépenses d'investissement. Le rapport est mis à disposition des conseillers en mairie dès le jour de l'envoi des convocations. Il est accompagné des annexes aux documents budgétaires prévus par les lois et règlements en vigueur. Toutes ces procédures n'ont pas été respectées. Donc à travers ce feuilleton à épisodes concernant l'organisation du débat d'orientation budgétaire, chacun... Ça vous fait sourire ?
Oui, le feuilleton à épisode, ça me fait un petit peu sourire.
Oui, 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 parce que ça...
C'est une série américaine.
Oui, c'est un peu Dallas, cette affaire. Chacun, donc, pourra constater votre manque de respect des élus du conseil municipal et votre degré, je pèse mes mots, d'irresponsabilité dans la gestion des affaires communales. Merci.
Alors, chers collègues, permettez-moi d'avoir un avis diamétralement opposé au vôtre, parce que c'est justement par souci du respect de la réglementation et notamment du respect des droits de l'opposition à être complètement et suffisamment informé que nous n'avons pas, que nous avons simplement reporté ce débat afin de disposer des données exactes qui sont fournies aux mairies par le Trésor public. Le Trésor public nous avait indiqué que très vraisemblablement, il pouvait nous fournir ces données et il s'agit en réalité du compte des réalisations qui ont été opérées, qui est dressé par le Trésor public, mi-février. Et il se trouve qu'au dernier moment, on a été averti que mardi, que finalement ces données allaient manquer. Donc pour que justement le débat se fasse sur des bases solides et précises, avec toutes les données qui sont nécessaires à ce débat-là, nous reportons simplement notre débat d'orientation budgétaire, avec cette fois le tableau et le compte dressé par le Trésor public, qui sera à vos dispositions et qui pourra nourrir notre conversation. Et ensuite, en ce qui concerne l'allusion que vous avez faite à la Commission des Finances, ben là je vous rappellerai simplement que la Commission des Finances n'a qu'un rôle consultatif et qu'il ne s'agit pas absolument d'une obligation de parler du débat d'orientation budgétaire en commission des finances. Nous l'aurions fait néanmoins si nous avions eu toutes les données du Trésor public. Maintenant, nous les avons et nous allons pouvoir, justement, avec une complète information des élus municipaux et surtout suffisamment de temps pour en prendre connaissance, débattre des orientations budgétaires de la commune le 7 mars.
Le 5 mars. À moins que c'est changé.
Non, c'est
le 5 mars. Bon, enfin, on n'est pas à deux jours près. Vous savez très bien que le débat d'orientation budgétaire, il n'est pas là pour faire la présentation du budget primitif, il est là pour donner des grandes orientations et il permet donc normalement d'avoir un échange entre élus sur justement ces orientations. On n'est pas tenu d'avoir des chiffres si précis que ça, puisque vous-même vous nous dites que vous nous avez dit l'année dernière que en ce qui concernait le budget primitif, on était dans des projections qui pouvaient effectivement varier en cours d'année à travers des décisions modificatives. Donc on est bien là dans les orientations, dans une situation, la présentation de la situation de la commune. Et dans des orientations sur les investissements. On n'est pas tenu d'avoir, et vous le savez très bien, des chiffres précis pour tenir un débat d'orientation budgétaire. Donc c'est bien, à mon avis, moi, mon sentiment, c'est que s'il n'y avait pas eu, je dirais, de réaction, ou du moins s'il n'y avait pas eu de visite de Laurent, par exemple, je me demande si vous n'auriez pas maintenu ce débat d'orientation budgétaire en nous le présentant, en nous donnant un document en séance et en nous le présentant sans qu'on ait eu le temps donc de le regarder.
Non,
qu'est-ce que nous pensons ?
Pas du tout. Nous attendions le compte du Trésor public. Et d'ailleurs, on a bien fait parce qu'on a quand même eu une petite surprise sur une somme relativement importante. Et croyez-moi, il était très 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 important d'avoir toutes ces données-là pour le débat d'orientation budgétaire et en particulier en matière d'investissement. Voilà, maintenant, nous allons passer au second point de l'ordre du jour. Mission locale du Haut-Vaucluse, adhésion 2015, rapporteur Annick Guerrero.
La mission locale du Haut-Vaucluse est constituée sous la forme d'un groupement d'intérêt public, le GIP, couvrant les cantons de Valréas, Bolène et les communes du territoire de la Capavo, les deux cantons d'Orange ainsi que la commune de Courthézon. Elle associe les collectivités territoriales, les administrations concernées par l'insertion sociale et professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans et les partenaires sociaux et économiques composés des trois collèges suivants. Collège des membres contributeurs, collège des acteurs économiques et sociaux, collège des organismes œuvrant dans le champ de l'insertion. Les activités de la mission locale concourent à l'élaboration et la mise en œuvre d'une politique locale d'insertion sociale et professionnelle, sachant que 98 jeunes de la commune sont actuellement suivis par les conseillers de cette structure. La mission locale du Haut-Vaucluse est présidée par un élu local et est pilotée par un conseil d'administration de 13 membres. Monsieur le maire propose que la commune de Camaret-sur-Aigue adhère au groupement d'intérêt public, mission locale de Haut-Vaucluse, moyennant une contribution de 1,15 € par habitant, soit une cotisation de 5 456,75 €. Une permanence de la mission locale sera assurée au sein de la Maison pour tous. Il est demandé au conseil municipal d'approuver l'adhésion de la commune de Camaret-sur-Aigue au GIP, mission locale de Haut-Vaucluse, moyennant une contribution annuelle de 1,15 € par habitant, soit 5 456,75 €, d'autoriser monsieur le maire à signer la convention constitutive du GIP, mission locale du Haut-Vaucluse, et tout document afférent à ce dossier.
Madame Thibault.
Bien. Je veux pas. Bon, ça y est. Quand vous dites, Madame Guerrero, qu'une permanence de la mission locale sera assurée au sein de la Maison pour tous, c'est déjà assuré, parce que c'est une compétence. Cette mission locale exerce depuis de nombreuses années sur la commune. À un moment, pendant quelques années, nous l'avions transférée, mais c'était plus une prise en charge par la communauté de communes. Vu que la communauté de communes n'a pas la compétence sociale, donc effectivement la commune reprend cette adhésion à la mission locale. Donc voilà, c'est tout ce que je voulais dire, que ça fait de très nombreuses années que la mission locale œuvre pour nos jeunes camarétois, donc de 16 à 25 ans. Voilà.
Et votre question, c'est il n'y a pas de question alors.
Non, simplement je voulais préciser que la mission locale était déjà exercée donc sur la Maison pour tous depuis de nombreuses années.
Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité et je vous en remercie. Dossier numéro 3, structure multi-accueil petite enfance, renouvellement de la convention d'objectifs et de financement avec la caisse d'allocation familiale, rapporteur Émilie Lagier.
la convention d'objectifs et de financement qui lie la caisse d'allocation familiale de Vaucluse à la structure multi-accueil petite enfance de Camaret-sur-Aigle, établissement d'accueil de jeunes enfants de 0 à 6 ans, est arrivée à échéance le 31 décembre 2014. Il convient de procéder à son renouvellement pour une période de 4 ans, afin de bénéficier notamment du versement annuel de la prestation de service. La présente convention définit et encadre les modalités d'intervention et de versement de la prestation de service, établissement d'accueil de jeunes enfants de 0 à 6 ans, pour la structure multi-accueil petite enfance de Camaret-sur-Aigle. Pour l'accueil des enfants de 0 à 5 ans révolus, la caisse d'allocation familiale de Vaucluse verse une prestation de service qui résulte des deux éléments ci-après. Une part de la prestation de service est déterminée sur la base de 66% du prix de revient d'horaire de l'établissement, dans la limite du prix plafond fixé par la CNAF, déduction faite des participations familiales. Une partie de la prestation de service est déterminée sur la base des 3 heures de concertation par place utilisée pour l'accueil des enfants, des jeunes enfants et par an, sur la base de la dernière autorisation ou dernier avis émis par le président du Conseil général. Ces heures de concertation sont prises en compte à hauteur de 66% du coût de finance, du fonctionnement horaire dans les limites du barème des prestations de services en vigueur, sans déduction des participations familiales. Le prix de revient s'établit comme suit. Total des dépenses de fonctionnement annuel de la structure divisé par le nombre d'heures enfants réalisées dans l'année. Le montant de la prestation de service s'établit à partir des heures facturées et du nombre d'heures de concertation, à savoir nombre d'heures enfants facturées par montant heures de la PSU, participation familiale par taux de la ressortissant du régime général, plus 3 heures de concertation par nombre de places conseil général 0 à 6 ans, par montant horaire de la PSU, par taux de ressortissant du régime général. Pour l'exercice 2014, le prix de revient par heure de la structure multi-accueil petite enfance s'élevait à 9,73 € et le prix plafond CAF retenu par le calcul de la prestation de service à 7,10 €. Compte tenu du nombre d'heures facturées et du taux de ressortissant du régime général, le montant en 2014 de la prestation de service total s'est élevé à 188 707,70 €, perçu pour partie sur service pour l'exercice 2014 et pour partie sur l'exercice 2015. 66% par 7,10 €, par 65 033 heures facturées, moins 100 731,44 € participation des familles, par 92,38 %, trop taux ressortissant du régime général. Le montant des heures de concertation s'est établi à 454,93 €. Pour l'exercice 2015, le montant prévisionnel de la prestation de service est estimé à 199 959 € et à 470,67 € au titre des heures de concertation. Il est demandé au Conseil municipal d'approuver la convention d'objectifs et de financement qui lie la caisse d'allocation familiale de Vaucluse à la structure multi-accueil petite enfance de Camaret-sur-Aigle pour l'accueil des jeunes enfants de 0 à 6 ans pour une durée de 4 ans. Et du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2018, d'autoriser Monsieur le maire à signer ladite convention ainsi que tout document y afférent.
Madame Chomel.
Voilà, j'ai une question en rapport indirect avec la délib. Donc une question à poser à l'ANJ en tant que délégué à la petite enfance, à M. Marlot en tant qu'adjoint à la jeunesse. Je sais bien qu'elles ne sont pas obligatoires, mais je voulais savoir pourquoi nous n'avons jamais de commission pour être tenus au courant, nous, en tant qu'élus, du fonctionnement des services tels que la LSH, tels que l'ORAM, tels que la crèche, la cantine. Je voulais savoir pourquoi, bien qu'elle ne soit pas obligatoire, nous n'avons jamais de commission,
la commission.
Oui, pour être tenue au courant du fonctionnement des services tels que le RAM, la crèche, le centre de loisirs et la cantine. Donc je posais la question aux élus.
Alors, si concerne le RAM, vous avez un comité de pilotage qui existe. Et ensuite, en ce qui concerne les autres questions, il y a forcément une commission qui rentre dans le champ de...
Non, mais on a, depuis un an que vous avez été élu, on n'a jamais eu, donc c'est la question.
Mais c'est pourquoi le pilotage qui est prévu
pour le RAM et le LAEP, vous avez deux comités de pilotage et qui sont prévus. Voilà, vous en avez deux qui sont prévus dans les mois qui viennent.
En juin 2014.
Voilà, mais vous allez en avoir.
On n'a pas été pour le courant, on n'a pas eu de résultat de pilotage. Et en règle générale, sur le fonctionnement des services à l'année, je sais bien que ce n'est pas obligatoire, mais il me semblerait quand même bien que les élus de la minorité soient conviés à des commissions où on soit tenu au courant du fonctionnement des services. Vous pourrez répondre aux camarades de voix qui nous interpellent.
Oui, je n'y vois absolument aucun inconvénient et nous allons prévoir lors d'une prochaine commission, même s'il n'y a pas forcément un ordre du jour qui est rattaché au conseil municipal, alors du jour du conseil municipal, mais nous allons prévoir effectivement, si vous le souhaitez, et pourquoi pas, bien entendu, un petit débat sur le fonctionnement des services que vous avez.
On ne parle même pas d'un débat, c'est simplement
une information.
Une information, donc ça fait quand même plus d'un an. Aucune information, donc je trouvais ça quand même
D'accord, mais ce sera fait.
Des heures en fonction des heures de travail. Parce que si c'est des commissions à 4 heures de l'après-midi...
Alors en général, vous savez bien qu'on essaie d'éviter ce genre d'horaire, même si quand c'est un petit peu plus tard, on nous répond que ça va pas non plus. Bon, on essaye de faire au mieux.
Voilà. C'était
Une autre question. Eh bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. Alors, rapport numéro 4, convention de mise à disposition de locaux avec l'association Le Sourire d'un Enfant. L'association Le Sourire d'un Enfant a pour objet de faire parvenir du matériel scolaire, des vêtements, des jouets, du matériel de bureau, des médicaments et du matériel médical aux centres scolaires, pouponnières, centres éducatifs, ainsi qu'aux hôpitaux et établissements médicaux fréquentés par des enfants de Cuba. La commune de Camaret-sur-Aigle souhaite soutenir l'association dans la poursuite de ses objectifs en mettant gratuitement à sa disposition les locaux de l'ancien tri-postal 6 places de la Poste à Camaret-sur-Aigle. Vu l'article L2144-3 du Code général des collectivités territoriales, considérant l'intérêt de mettre à disposition gracieuse des locaux communaux pour la bonne organisation de l'action menée par l'association Le Sourire d'un Enfant, il est demandé au conseil municipal d'approuver les termes de la convention de mise à disposition des locaux de l'ancien centre de tri de la Poste à conclure avec l'association Le Sourire d'un Enfant. D'autoriser M. le maire à signer la dite convention et tout document s'y afférent. Madame Chomel.
Alors, attends.
Là, il faut que j'appuie là. C'est bon ?
C'est bon.
Oula. Voilà, alors j'aurais trois questions à vous poser, Monsieur le maire, concernant cette convention. La première est une interrogation sur le choix près du local à cette association. Je ne débat absolument pas sur l'objet de l'association qui est absolument honorable, mais c'est une association dont l'activité n'est pas connue, une petite association qu'on pourrait qualifier de familiale, alors qu'une autre association d'utilité publique reconnue comme le Secours Populaire est en attente d'un local, et on espérait que ce local disponible, le Secours Populaire, pourrait en bénéficier. Est-ce que je vous pose toutes les questions d'affilée ?
Oui.
Voilà. La deuxième question concerne l'article 10, où la mise à disposition du local est en contrepartie. La présidente va intervenir dans le cadre des temps d'activité périscolaire. Donc mes deux questions suivantes se rattachent à cet article 10. La première est, est-ce que c'est la seule association qui aura cet avenant? Dans ce cas-là, pourquoi? Et la seconde est un petit peu plus complexe, c'est dans quel cadre pédagogique la présidente va intervenir dans le cadre du périscolaire, sachant que les TAP, c'est pas une conférence sur l'humanitaire, ça va être plusieurs heures avec plusieurs enfants. Donc je voudrais savoir si la présidente a le bagage pédagogique nécessaire pour expliquer aux enfants certaines choses, et si vous vous portez garant du cadre dans lequel elle va intervenir.
Voilà. Alors, je vous réponds. En ce qui concerne votre première question, le choix du local, il faut préciser au conseil municipal qu'il s'agit simplement d'un local de stockage.
Oui, mais le secours populaire a besoin d'un local de stockage.
Un besoin dont il ne nous a à ce jour pas fait part. Oui. Bah, écoutez, en ce qui nous concerne, nous n'en avons pas eu trace. Hein, et c'est un local dont nous venons de prendre possession, qui aurait nécessité beaucoup de travaux, notamment de respecter les nouvelles normes en vigueur pour que ce soit un local qui accueille du public. Donc effectivement, nous sommes contraints de le cantonner à simplement une activité de stockage. Donc nous avons une association camarétoise, ce qui n'est je ne pense pas le cas du Secours Populaire à ce jour.
Oui, mais si vous prenez les choses comme ça, le Secours Populaire peut s'adresser à des camarétois que l'association.
Tout à fait. Enfin, là, nous avons une association humanitaire typiquement camarétoise qui tout de suite s'est portée candidate pour occuper ce local, et ça nous a semblé tout à fait une bonne chose de le faire. Ensuite, en ce qui concerne l'article 10, alors nous demandons effectivement à un maximum d'associations de camarés qui soit reçoivent une subvention, soit reçoivent un concours matériel ou indirect de la commune, de participer dans la mesure de leurs possibilités au TAP, au temps d'activité périscolaire. Nous l'avons proposé.
Elle s'engage, excusez-moi monsieur le maire, dans l'article, elle s'engage.
Tout à fait.
Donc est-ce que pour les autres associations, les termes sont les mêmes? Est-ce qu'ils s'engagent en contrepartie d'une gratuité d'un local ou d'une subvention à se mobiliser pour les TAP?
Alors non, ce n'est pas forcément le cas. Vous savez que nous sommes en année un petit peu de d'expérience en ce qui concerne la mise en œuvre des TAP. Et donc nous avons eu la possibilité d'obtenir de cette association un engagement qu'elle paraît pouvoir tenir, donc nous en avons profité. Quand on peut faire les choses au mieux, on le fait. Il y a d'autres associations qui participent au TAP auxquelles nous ne demandons pas forcément les mêmes engagements parce que en fait on réagit au cas par cas. Il y a des associations qui nous ont dit ben on va peut-être pouvoir un cycle, mais peut-être pas toute l'année. Voilà, on est dans une année d'expérience. On est contraint d'appliquer une réforme dont vous le savez nous n'avons pas tellement souhaité. On essaie de la mettre en œuvre le mieux que nous le pouvons, jusqu'à présent avec un certain succès. C'est d'ailleurs ce qu'a retenu monsieur le préfet de Vaucluse quand il nous a fait l'honneur de venir ici signer les documents afférents à cette mise en œuvre de cette réforme. Donc je pense que nous n'avons pas trop de critiques à recevoir sur la mise en œuvre de cette réforme qui se passe pour l'instant plutôt bien. Effectivement, pourquoi pas envisager plus tard une systématisation de ce genre d'avenant, comme vous semblez le souhaiter.
Mais non, je m'interroge.
Il faut tenir compte de notre tissu associatif local. Vous savez que en nombre, on en a beaucoup d'associations sur Camaret, il y en a un petit peu plus d'une cinquantaine. Mais ensuite, certaines sont quand même sont relativement fragiles au niveau de l'engagement des bénévoles. Certaines ne réunissent pas le quorum lors de la première assemblée générale, et pourtant ce sont des associations fort bien établies sur la commune et depuis très longtemps. Donc je ne veux pas non plus trop tirer sur la corde et trop imposer comme ça de contraintes à nos associations qui n'en ont pas besoin. Voilà, donc pour l'instant, il n'est pas envisagé de systématiser ce genre d'avenant. Mais là, nous avions l'occasion de le faire et nous l'avons fait. C'est aussi pour par rapport aux contribuables de Camaret, expliquer pourquoi ce local est mis gratuitement à, à la disposition de cette association. Donc on explique qu'en contrepartie, cette association s'engage dans la mise en œuvre de cette réforme des rythmes scolaires. Et enfin, en ce qui concerne votre troisième question, est-ce que cette association a toutes les compétences et toutes les qualifications requises pour encadrer l'étape, ben, vous le savez, puisque vous avez été adjointe à la jeunesse pendant 6 ans, vous savez que la mise en œuvre des rythmes scolaires, l'étape, l'organisation d'étapes ne nécessite pas de qualification particulière par rapport à la loi. Donc là encore, on agit de manière empirique, on fait un petit peu ce que l'on peut avec ce que l'on a. Ce que nous savons, c'est que, bien entendu, il ne s'agit pas de refaire encore un cours magistral après quelques années, à quelques heures passées à l'école. Il s'agit de faire une activité dans un cadre beaucoup plus détendu autour de la culture espagnole, puisque, comme vous l'avez remarqué, l'association s'intéresse à Cuba. Voilà.
Oui, c'était un truc qui m'avait échappé, que ça serait pour l'espagnol. Mais en tout cas, je voulais vous remercier sur votre satisfaction pour la mise en place des TAP, y en travailler pendant une année. Je suis tout à fait satisfaite que tout se passe bien. Je suis ravie de l'apprendre.
Et
ce soir.
Lorsque Monsieur le Préfet est venu, nous n'avons pas du tout tiré la couverture à nous.
Je vous remercie d'en parler.
Le travail qui avait été fait précédemment.
Je réitère le fait que ce n'est pas du sport, ce n'est pas d'animation, donc que quand même nous serons vigilants sur les TAP.
Je sais que vous serez vigilants.
Voilà, dans la mesure où on sera au courant. Voilà.
Et j'ajoute que la présidente, notamment de cette association, est enseignante en fait. Hein, elle a toutes les qualifications requises pour enseigner l'espagnol. Donc il me semble qu'au niveau de la qualité de ses qualifications, c'est assez costaud. Voilà, y a-t-il d'autres? Oui, monsieur Payalonga.
Et donc moi c'était pour aller un petit peu dans le même sens que Véronique, mais c'est surtout qu'il y a un certain nombre d'associations qui vous ont sollicité depuis votre élection pour vous demander un local. Donc cette association est tout à fait louable puisqu'elle est à caractère aussi social, mais je pense qu'il y a d'autres associations qui sont en attente de local et il faudra penser à elles, notamment lors de différentes assemblées générales où les responsables d'associations sont intervenus auprès des élus de la majorité et qui ont fait une demande de local. Je pense qu'à un moment donné, il faudra penser aussi à ces associations-là, qui sont nombreuses et qui, par le nombre et surtout par le nombre de demandes.
J'entends Merci. Bien, mais j'insiste à nouveau sur le caractère extrêmement restrictif de l'utilisation que l'on peut faire de ces locaux, qui sont vraiment pas du tout en bon état et qui ne peuvent servir malheureusement qu'à du stockage, vraiment que du stockage strictement. Voilà, ceci étant dit, nous passons au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Abstention des élus de gauche. Vous n'êtes pas de gauche? Alors, les élus socialistes? Non plus? D'accord.
Si.
Ah bon, je ne sais pas, vous faites non alors.
Mais moi je dis que je suis au Parti Socialiste, vous ne dites pas que vous êtes.
Ah, je ne dirai pas que je suis au Parti Socialiste.
Ah, moi j'assume, monsieur.
Voilà. Alors, je passe au rapport suivant. Mise en place des astreintes pour les services techniques, rapporteur Hervé Aurillac.
Vu la loi numéro 83-634 du 13 juillet 83 portant droits et obligations des fonctionnaires, vu l'article 2 du décret numéro 2005-542 du 19 mai 2005 définissant l'astreinte comme l'obligation qui est faite à un agent de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'administration, et précisant que la durée de cette intervention ainsi que le déplacement aller et retour sur le lieu de travail lié à l'intervention pendant l'astreinte sont considérés comme un temps de travail effectif. Vu l'article 5 du décret 2001-623 du 12 juillet 2001 laissant le soin à l'organe délibérant de la collectivité de déterminer, après avis du comité technique compétent,
les cas dans lesquels il est possible de recourir à des astreintes, les modalités de leur organisation et la liste des emplois concernés. Vu le décret 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret 2001-1367 du 28 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret 87-1101 du 30 décembre 87, portant disposition statutaire particulière à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés. Vu le décret 2005-542 du 19 mai 2005 fixant les modalités de la rémunération ou de la compensation des astreintes et des permanences dans la fonction publique territoriale en se référant aux dispositions prévues pour les services de l'État. Vu la délibération du Conseil municipal de Camaré numéro 2011-84 en date du 7 juillet 2011 fixant les indemnités d'astreinte et d'intervention, considérant que pour le bon fonctionnement de services publics, il est indispensable de mettre en place un planning d'astreinte au sein des services techniques selon les modalités suivantes. Suite à l'appel du maire, de l'élu de permanence ou du directeur général des services, l'agent d'astreinte est tenu d'intervenir. L'agent d'astreinte doit être disponible et joignable à tout moment et pouvoir se rendre sur les lieux du problème posé en 30 minutes maximum. Le matériel suivant sera mis à disposition du personnel d'astreinte. Un véhicule sera mis à disposition de l'agent d'astreinte au garage municipal, ainsi que l'outillage spécifique et nécessaire aux interventions. L'agent d'astreinte sera joignable sur son téléphone portable professionnel et l'utilisera durant l'astreinte. Un accès aux clés des bâtiments communaux sera donné à l'agent d'astreinte. La liste, ainsi que les numéros de téléphone des services d'urgence et des responsables communaux à joindre en cas de décision importante relevant de leurs compétences, sera mis à disposition de l'agent d'astreinte. Un planning semestriel des astreintes sera établi sous la responsabilité du directeur général des services en concertation avec les agents d'astreinte. Sauf cas de force majeure, aucun changement ne sera accepté. L'intervention pendant l'astreinte, si elle a donné lieu à réalisation d'heures supplémentaires, peut être rémunérée au titre des heures supplémentaires, conformément à l'article 9 du décret 2002-60 du 14 janvier, relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires. Considérant les modalités de rémunération des astreintes prévues dans la délibération 2011-84, en date du 7 juillet 2011, considérant que la rémunération des astreintes et des permanences ou leur compensation ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement par nécessité absolue de service, d'une nouvelle bonification indiciaire au titre de l'exercice de fonctions de responsabilité supérieure prévue par l'article par le décret 2001-1274 du 27 décembre 2001 et le décret 2001-1367 du 28 décembre 2001, notamment emploi fonctionnel des communes à compter de 3500 habitants et des communautés de communes et d'agglomérations à compter de 20 000 habitants. Vu l'avis du comité technique en date du 6 février 2015, il est demandé au conseil municipal d'autoriser Monsieur le maire d'établir un planning d'astreinte au sein des services techniques de la commune de Camaré et d'en fixer les modalités. D'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents afférents à ce dossier, d'insérer au budget les crédits correspondants.
Monsieur Mengui.
Oui. Alors, décidément, j'y arriverai pas à soir.
C'est bon.
Voilà. Une précision tout d'abord. Donc, si j'ai bien lu la délibération, on va passer d'un système d'astreintes qui était des astreintes jusqu'à présent qui étaient ponctuelles à des astreintes avec un planning, donc où toutes les semaines, je sais pas comment c'est organisé, il y aura donc une astreinte toutes les semaines. Donc, on passe de quelque chose qui était donc ponctuel en fonction d'événements ou d'activités sur la commune à quelque chose qui sera toutes les semaines mise en place.
Absolument.
Avec, alors, première question, donc tout ça, ça va avoir un coût pour le budget de la commune.
Non.
Est-ce que non?
Non.
Alors, ok. Et alors, est-ce que vous pourriez nous détailler
parce que nous avons placé en astreinte un certain nombre d'agents de la collectivité qui soit bénéficient d'un logement par nécessité absolue de service, soit qui bénéficient d'une nouvelle bonification indiciaire. Et à ce titre-là, cela n'implique pas une augmentation.
D'accord, mais c'était pas
de la rémunération.
C'était pas évident à la lecture de la délibération.
La précision vous est apportée.
Et puis, juste une remarque de forme, c'est sur le planning semestriel des astreintes, il est dit, donc planning semestriel, impossibilité de le changer, sauf cas de force majeure. Alors, je trouve que c'est un peu raide, si je puis dire, parce que on peut avoir dans sa vie de famille des difficultés imprévues, et je pense que ce serait bien qu'il y ait un peu plus de souplesse par rapport à ça, dans la mesure où si on regarde la définition stricte des cas de force majeure, je trouve que c'est un peu raide, et j'espère qu'il y aura une application un peu plus souple de la mise en place de ces plannings et de la possibilité pour un agent face à des difficultés familiales à pouvoir changer le cas échéant le planning. Voilà.
Chers collègues, comme dans toute règle, il y a l'esprit et il y a la lettre. Il y a la lettre et il y a l'esprit.
D'accord.
Donc, jusqu'à présent, à ma connaissance, le personnel communal ne se plaint pas de la gestion qui serait inhumaine des ressources humaines, donc justement.
Monsieur,
donc, jusqu'à présent, nous avons plutôt fait preuve justement d'écoute, d'attention. Nous avons une gestion
extraordinaire,
plutôt humaine de notre personnel. Et voilà, il y a la lettre, il y a l'esprit.
Alors,
dans l'esprit, jusqu'à présent, nous faisons bénéficier notre personnel de pas mal de souplesse.
Je vous l'ai déjà dit, ne trouvez pas malice à tout ce que je dis. Simplement, moi, je lis une délibération. Je n'ai pas tous les éléments en ma possession, et je vous demande de le préciser. C'est tout. Vous m'avez répondu. Voilà. Mais ne voyez pas derrière à chaque intervention une volonté de vous mettre en difficulté.
Ce n'est pas du tout mon cas.
Écoutez, c'est ce que je crois comprendre.
Il y a quelquefois des choses qui, effectivement, notamment au conseil municipal, valent la peine d'être précisés.
Merci.
Voilà. Et puis donc nous répondons quand même à un besoin vraiment sur la commune. C'est vrai qu'il y a des choses qui peuvent être prévues, planifiées, mais pas tout le temps, notamment je pense aux accidents de la circulation qui nécessitent l'intervention des services municipaux, des services techniques, en particulier pour baliser l'accident, pour éviter le suraccident. Voilà. Si en fait nous en sommes venus à cette mesure, c'est parce que c'était tiré de l'expérience. Nous avons rencontré un certain nombre de difficultés où les choses se sont bien passées quand même, mais à l'avenir, il fallait quand même prendre davantage de précautions, et il n'était pas inutile, bien au contraire, de mettre un agent des services techniques à la disposition de l'élu municipal qui, lui aussi, est d'astreinte. Voilà. Y a-t-il d'autres questions ? Alors, je mets aux voix. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, et je vous en remercie. Et enfin, modification du tableau théorique des effectifs, service enfance-jeunesse, rapporteur Antonio Muga.
Ah, pardon. Merci. Donc, vu l'article 3, alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée, vu la délibération du 23 octobre établissant le tableau théorique des effectifs de la commune de Camaret-sur-Aigue, vu le budget de la commune, vu les dispositions statutaires applicables aux différents agents de la commune en matière d'évolution de carrière, considérant qu'il est nécessaire de recourir à l'emploi d'un agent titulaire à temps complet pour le service enfance-jeunesse et que cet agent exercera à titre principal les fonctions d'animateur principal de deuxième classe. Sous réserve de l'avis de la commission administrative paritaire devant se réunir le 9 avril 2015, oui, les propositions de M. le maire, il est demandé au conseil municipal d'accepter la création du poste budgétaire suivant. Un poste d'animateur principal de deuxième classe à temps complet pour le service enfance-jeunesse. D'accepter le nouveau tableau théorique des effectifs tel qu'annexé à la présente délibération.
Des questions ?
C'est le remplacement de
Non, c'est en fait tout simplement pour prendre acte du fait que Monsieur Wilfried Bricourt a réussi l'examen d'animateur deuxième classe, justement. Donc, nous accédons à son désir d'être nommé à ce poste. Voilà, et sous réserve, bien entendu, de l'avis de la commission du personnel. Donc, je mets au vote qui est contre. Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité, je vous en remercie. Alors, y a-t-il des questions diverses ?
Oui.
Madame Thibault.
Sur les heures des commissions, parce que là, la semaine prochaine, nous avons à nouveau une commission à 16 heures. Donc c'est une commission, enfin c'est la commission du personnel, le mardi 24 février à 16 heures. Donc je voulais déjà signaler 16 heures. Effectivement, je peux demander à mes collègues de me remplacer. Ils travaillent aussi. Donc moi, c'est impossible pour moi de me libérer à 16 heures l'après-midi. Je vous avais fait part, mais ça, vous n'êtes pas obligé d'en tenir compte. Il y a quand même d'autres horaires. La mairie ouvre ses portes à 13 heures. Je suis disponible si vous avez envie que nous participions aux commissions. Je crois qu'il va falloir à un moment réfléchir un petit peu en termes de disponibilité. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Donc, je tiens déjà à excuser mon groupe. Il n'y aura personne lors de la commission du personnel.
Oui, je vous signale que par rapport au régime précédent, si je puis dire, par rapport au précédent mandat, nous avons ouvert la possibilité aux élus de l'opposition qui sont membres d'une commission de se faire remplacer par un autre élu qui en fait n'en est pas membre. Donc ça n'existait pas avant. Donc c'est pour que justement offrir la possibilité à l'opposition de participer au maximum à ces commissions. Alors ensuite, quelquefois nous avons des contraintes horaires et nous ne pouvons pas tenir compte des desiderata de chacun.
Oui, alors ça n'existait pas avant, certes, parce que nous adaptions les commissions en fonction des disponibilités des élus, de l'ensemble des élus. Vous n'en faisiez pas partie, malheureusement.
Bon, mais non, voilà. Je n'en faisais pas partie.
Oui, mais enfin, on ne va pas revenir là-dessus. Vous
c'est
appliquez
vous qui,
les mêmes
c'est vous
règles,
qui revenez,
hein.
Ce n'est
voilà.
pas moi.
Non, mais je vous le dis. Simplement, voilà. Quand on veut, je dirais, pratiquer démocratiquement, je dirais, un échange et un débat. Voilà, on fait attention, on organise.
Là, vous nous faites un faux procès, vous faites un procès
d'intention.
Ah non,
d'intention. Je ne fais pas de procès, monsieur.
Si.
Vous passez toujours...
Vous êtes quatre élus.
Ça, c'est le principe du Front National, c'est de se positionner en victime en permanence.
Fois,
donc, c'est un
fois,
petit peu dommage.
On ne peut pas plaire à tout le monde. Mais vous êtes quatre à pouvoir vous rendre à la commission
dont
trois qui n'en
font
pas forcément partie.
Nous travaillons, comme vous le savez, et comme certains autres élus travaillent. Et je vous demande de respecter un petit peu, je dirais, voilà, ce...
On fait ce que l'on peut, madame, oui, on fait le maximum. Si nous n'avions pas été dans cet état d'esprit, nous n'aurions pas offert cette possibilité aux membres de l'opposition de se
voilà,
faire
remplacer par un autre. Voilà, mais je vous dis, à 13h, ça me convient parfaitement.
Et oui, mais ça ne va pas convenir à d'autres. Voilà, il n'y a pas que Malin Thibault qui compte. Écoutez, je vous remercie. Je vous indique que le prochain conseil municipal... Ah non, il y a M. Payalonga, donc il doit lire la lettre de Mme Sauvera.
Donc c'est Madame Sauvera qui m'a demandé, ma collègue Madame Sauvera qui m'a demandé de lire cette lettre au conseil municipal. Donc mesdames, messieurs les élus, monsieur le maire, avant de clore ce conseil, je vous prie de m'accorder quelques minutes. Je ne suis pas parmi vous ce soir car je suis dans le Var pour assister à des obsèques. Mais si je prends la liberté de vous en parler, c'est parce qu'il s'agit des obsèques du neveu de mon compagnon Jean-Claude Borgelat, mon neveu par alliance mais aussi de cœur, Xavier Catény. Xavier était le pilote français mort de manière dramatique le mardi 26 janvier dernier à Tripoli dans le Grand Hôtel Continental au cours de l'attentat commis par le groupe État islamique, la branche libyenne de Daesh. Vous pourrez d'ailleurs retrouver l'article sur cet attentat sur Internet. Cet hôtel recevait tous les hommes d'affaires ou politiques de passage, mais aussi les équipages en escale. Je voudrais vous parler brièvement de Xavier. Xavier a fait une brillante carrière dans l'armée de l'air en tant que pilote sur Mirage F1 puis sur Mirage 2000. Après avoir participé à plusieurs opérations aussi bien au Moyen-Orient qu'en Europe de l'Est ou encore en Afrique, et après avoir obtenu le grade de lieutenant-colonel, Xavier a décidé de prendre sa retraite et réintégrer sa vie civile. Mais on ne quitte pas l'aviation comme cela. Xavier a tout à fait continué à vivre sa passion. Il a notamment assuré la fonction de commissaire de vol lors des meetings aériens en France et en Espagne. Il a voulu aussi faire partager sa passion à des jeunes handicapés en créant l'association Un enfant, un avion, un rêve et en les faisant voler en planeur sur le bassin d'Arcachon ou en vol moteur au-dessus de la Bourgogne. France Bleu Gironde lui avait d'ailleurs dédicacé une émission pour cela en juin 2014. Il espérait un jour piloter pour Air France, mais en attendant, il pilotait pour des compagnies aériennes civiles afin de cumuler les 500 heures de vol sur avion de ligne exigées par Air France pour tout postulant. Lorsque Xavier a été exécuté d'une balle dans la tête, ainsi que tout son équipage, il était sur le point de quitter l'hôtel et repartir de Tripoli après une simple escale réglementaire et normale. Après 3 semaines d'attente insoutenable durant lesquelles le corps de mon neveu était retenu en Libye à cause de la guerre civile qui s'y déroule, comme vous le savez, nous avons enfin pu l'accueillir jeudi dernier, 12 février, à 23h à Roissy, où une cérémonie religieuse s'est déroulée sur place en présence de sa mère, des représentants des différents services et ministères et corps d'armée. Puis Xavier nous a été enfin rendu mercredi 18 février et son corps conduit à Pierrefeu-du-Var où ce matin ont eu lieu ses obsèques religieuses. Depuis bientôt un mois, bien qu'ayant reçu une lettre de condoléances de l'Élysée, sa mère et toute sa famille avaient quotidiennement pour consigne d'éviter d'en parler et surtout de ne pas contacter les médias. C'est ce que nous avons fait, nous avons été des citoyens français très obéissants. Mais ce soir, je romps le silence et je vous demande d'avoir une pensée pour lui et pour sa mère. Il s'appelait Xavier Cateny, son nom de guerre était Katz et il avait seulement 48 ans. Merci de m'avoir écouté.
Merci pour cette émouvante communication. Eh bien écoutez, donc le conseil municipal est maintenant terminé. Je vous annonce effectivement que le prochain conseil aura lieu le 5 mars. Et je vous souhaite une bonne soirée.